Grand reportage.
The President of the United States.
Le président des États-Unis d'Amérique.
The Prime Minister of the State
le Premier ministre de l'État d'Israël. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis et le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn vont à présent signer les accords d'Abraham.
Will now sign the Abraham Accord.
C'était il y a un an jour pour jour. Le 15 septembre 2020, deux des monarchies arabes du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, signent à Washington un accord de normalisation de leurs relations diplomatiques avec Israël. Aux Émirats, cet accord signé sous l'égide des États-Unis n'a pas suscité la moindre critique, du moins publiquement. Les retombées économiques sont très importantes pour le pays. Ces accords d'Abraham, comme on les appelle, ont aussi eu des conséquences pour la communauté juive locale, dont la vie quotidienne est aujourd'hui facilitée. Ce que la normalisation Israël a changé aux Émirats, c'est un grand reportage de Nicolas Kérodrin.
À Dubaï, l'une des sept principautés qui composent la Fédération des Émirats Arabes Unis, une dizaine de juifs orthodoxes prient tous les matins dans une synagogue improvisée. Ce lieu de culte est situé dans un hôtel du quartier de la Marina, l'un des lieux les plus touristiques de l'Émirat. Une salle de réception qui sert en principe au séminaire professionnel a été mise à la disposition de ses fidèles. L'endroit est aseptisé, seuls quelques carnets de prières posés sur une table permettent de le distinguer. Ce matin-là, c'est le rabbin Lévi Dourman qui dirige la prière. Ce juif orthodoxe est membre de la communauté Rabba de Lubavitch. Il a assisté l'année dernière à la signature des accords d'Abraham. Celle-ci s'était tenue en grande pompe à Washington. La mise en scène de la cérémonie rappelait la signature du premier traité de paix israélo-arabe entre l'Égyptien Anwar al-Sadat et l'Israélien Menahem Begin. Sur son téléphone, Lévi Dourman fait défiler les quelques photos souvenirs qu'il a pu capturer sur la pelouse sud de la Maison Blanche.
En tant que rabbin de la communauté juive des Émirats, c'était très important pour moi d'être présent à Washington et d'assister à la signature avec le ministre Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. C'était une scène incroyable. À ce moment-là, tout le monde a été en mesure de voir la vision des Émirats et de leurs dirigeants. L'idée est de construire des ponts entre les communautés, de rassembler les générations et de leur enseigner comment apprendre l'une de l'autre. Ainsi, nous pouvons construire ensemble un meilleur avenir pour nos enfants et les futures générations.
La normalisation avec Israël a été voulue par Mohamed Ben Zayed, l'héritier au trône d'Abu Dhabi. Celui qui est aussi l'homme fort des Émirats a par ailleurs lancé un gigantesque chantier dans la capitale du pays, comprenant une mosquée, une église et une synagogue. La tolérance religieuse est un argument de soft power aux Émirats. Bien que la communauté juive du pays n'était pas officiellement reconnue, son existence remonte à une dizaine d'années. Les juifs du pays priaient en catimini dans une villa privée d'un quartier résidentiel de Dubaï avec l'accord tacite des autorités. Le rabbin Lévi Dourman est arrivé ici il y a 7 ans.
Avant ces accords d'Abraham, notre communauté juive avait déjà l'essentiel. Nous étions acceptés, tolérés et plus ou moins structurés aux Émirats. Depuis la signature, puisque vous me demandez ce qui a changé, nous sommes à présent une communauté regardée par le monde entier, car nous sommes devenus une source d'inspiration pour eux ainsi que pour les autres pays.
En plus de cette mise en lumière, les accords d'Abraham ont aussi facilité le quotidien de la communauté juive dans le pays. Même s'il est encore quasi impossible d'estimer le nombre de fidèles juifs à vivre ici, cette communauté est très diverse. Les détenteurs du passeport israélien peuvent aussi à présent voyager aux Émirats, ce qui n'était pas possible auparavant. Des centaines de nouvelles familles se sont ainsi installées dans le pays, affirme le rabbin Dourman. Pour ces nouveaux arrivants, le cadre de vie confortable qu'offre la cité de Dubaï a vraisemblablement été un argument qui a pesé dans la balance. Mais désormais, il est aussi possible pour eux d'y vivre une vie conforme aux traditions hébraïques. Un mikvé, le bain rituel utilisé pour l'ablution dans le judaïsme, a même été inauguré. Lévi Cohen est l'un de ceux qui s'est laissé tenter par cette nouvelle réalité de Dubaï. Ce Français de 35 ans, originaire de Paris, s'est installé ici en fin d'année dernière. Il s'estime même plus pratiquant qu'auparavant.
Il y a plusieurs communautés aujourd'hui à Dubaï. On peut faire bien sûr la prière le matin, l'après-midi et le soir sans problème. Et il y a bien sûr plusieurs restaurants cachers qui ont ouvert. Il y a une liste de certains aliments qu'on peut acheter dans les magasins d'alimentation en règle générale. Il y a un boucher qui vend de la viande cachère. Donc, toutes les choses essentielles à la vie quotidienne pour un juif à Dubaï sont assez faciles d'accès.
Lors de cette rentrée scolaire, les résidents juifs de Dubaï ont même pu inscrire leur enfant dans un nouvel établissement éducatif. Au milieu de pavillons résidentiels, à quelques dizaines de mètres d'une mosquée, une crèche, dont le nom se traduit par « petit miracle » au pluriel, vient en effet d'ouvrir ses portes. Rien ne la distingue des autres, a priori. L'enseignement qui y est dispensé est pourtant qualifié de juif. Les enfants peuvent notamment y apprendre l'hébreu, ils y mangent aussi kasher. Pour Émilie Benslous, une Française mère de trois enfants, l'ouverture d'un tel établissement était essentielle.
C'est important que les enfants se sentent appris comme chez eux. C'est un nouveau pays, c'est beaucoup de changements pour eux. Donc c'est important qu'ils se retrouvent aussi. Moi, ça m'émeut vraiment, parce que quand je suis arrivée ici, c'était impensable.
Cette crèche juive a été inaugurée en décembre 2020 par le grand rabbin séfarade d'Israël, Yitzhak Yosef. C'était d'ailleurs sa première visite dans le pays arabe. La crèche Petit Miracle est l'une des nombreuses illustrations du développement de la communauté aux Émirats. Celle-ci est désormais structurée. Sonia Selem est la propriétaire de ce lieu. Cette Française est aussi originaire de Paris. Elle est arrivée avec sa famille en février 2020. Son projet est né à l'automne de la même année. Elle souhaitait d'abord créer une crèche de très haut niveau, sans nécessairement que l'enseignement dispensé soit lié à la culture juive. Les plans ont changé avec les accords d'Abraham.
C'est un établissement unique, puisqu'il est le seul. C'est historique de pouvoir inaugurer une crèche juive, laïque, mais juive quand même, ici aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Dans le Golfe, ça n'existe pas, nous sommes les seuls. J'espère les premiers, j'espère que d'autres vont suivre. Donc nous sommes évidemment très fiers et très heureux de pouvoir célébrer ça aujourd'hui.
Sonia Selem espère à présent développer cette activité, pour l'instant réservée aux plus jeunes. Des écoles pour les plus grands ouvriront peut-être à l'avenir. En attendant, les enfants de 2 ans jusqu'au pré-ado peuvent participer à un programme spécial organisé tous les vendredis, jour de Shabbat, qui est aussi férié aux Émirats. Ce matin-là, une cinquantaine d'enfants, dont de très nombreux Français, ont fait le déplacement. Sous la supervision des équipes du rabbin Lévi Dourman, ils se familiarisent à la culture et aux traditions juives.
On apprend un petit peu d'hébreu. Évidemment, les enfants, pour certains, sont très jeunes, donc on ne va pas trop les accabler non plus. Certains sont israéliens, donc l'hébreu est leur langue maternelle, ils sont très à l'aise. D'autres ne parlent pas forcément hébreu, mais sont ravis de l'apprendre, surtout qu'à la maison, de temps en temps, entre certaines prières ou certaines chansons, ils ont déjà quelques notions. Donc voilà, l'alphabet, par exemple, je tiens des cartes de l'alphabet hébraïque. Encore une fois, j'en reviens au fait, on vient à peine de quitter Rosh Hashanah, le nouvel an juif, pour arriver vers Yom Kippour, puis ensuite Sukkot, et ensuite Simchat Torah. Donc évidemment, ça donne des thèmes aux éducateurs pour pouvoir créer des cours autour de ces thèmes-là qui sont très importants.
Au terme de cette demi-journée, les parents viennent chercher leur enfant. Sur le bureau à l'accueil, une pile de dossiers d'inscription s'accumule.
Le fait d'être un établissement juif n'est pas du tout un obstacle, au contraire. Nous avons même des enfants locaux, émiriens. Donc ça ne pose aucun problème. En revanche, comme toute nouvelle entreprise, nous devons nous affirmer sur le marché. Et nous avons peu d'enfants, mais parce que aussi nous venons à peine d'ouvrir il y a quelques jours. Nous avons des inscriptions déjà pour le mois qui vient, pour l'année qui vient. Nous avons aussi des familles de l'étranger qui nous ont contactés. Il y en a plusieurs qui vont arriver dans les mois à venir et qui vont s'établir l'année prochaine.
Les projets de Sonia Selem ne s'arrêtent pas là. Un centre culturel juif sera bientôt aussi ouvert juste à côté de la crèche. Des cours pour adultes y seront enseignés. À plusieurs kilomètres de là, Alexandre Peterfrun arrive au bureau. Dans ses locaux perchés au 45e étage d'un centre des affaires de Dubaï, ce Belge de confession juive enchaîne les appels téléphoniques avec Anvers, la capitale mondiale du diamant. C'est là où est installée la maison mère de l'entreprise pour laquelle il travaille. Ce diamantaire est basé aux Émirats depuis 2014. Avant la normalisation des relations avec Israël, il n'a jamais pu commercer directement avec Tel Aviv, l'autre grande place du diamant au Moyen-Orient. C'est désormais possible.
Il y a toujours eu des échanges, mais les échanges étaient toujours via l'Europe. Il n'y a jamais eu d'échange direct. Il n'y avait pas moyen de transférer de l'argent non plus dans les banques ici, locaux. Donc tout ça, doucement, s'est mis en place. Et donc aujourd'hui, les transactions se font tout à fait ouvertement. Le diamant, il est envoyé directement via Tel Aviv, ce qui n'était pas possible avant non plus. Il fallait toujours transiter vers Hong Kong, Genève. Donc tout ça a facilité les choses.
Même si les accords d'Abraham ont plusieurs objectifs, leur volet économique est l'un des piliers. En un an, les échanges commerciaux entre Israël et les Émirats arabes unis s'élèvent d'ailleurs à environ 700 millions de dollars, investissements compris. Ils pourraient même dépasser la barre du milliard d'ici la fin de l'année. Depuis l'année dernière, de nombreux accords dans les domaines divers ont en effet été conclus entre l'État hébreu et la monarchie arabe du Golfe.
Mais c'est très simple. Les Israéliens, pour eux, l'accord, c'est plutôt un accord politique. C'est plutôt un accord de, vous voyez bien, les pays musulmans ou les pays arabes peuvent très bien coexister avec nous. Le problème palestinien est un problème, mais ça n'empêche pas pour nous d'avoir des relations avec nos voisins arabes. Donc du côté israélien, c'est plutôt un accord où on met les accents plutôt sur la politique. Tandis que pour les Émiratis, c'est vraiment un accord presque uniquement économique. On coopère dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le diamant, comme vous voyez. Donc il y a quand même une petite approche différente et tout ça, ça prend du temps un petit peu pour les deux côtés à s'adapter.
Sabah al-khair, Hamdan. How are you?
Pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, Alexandre Peterfön a donc créé, en plus de son activité professionnelle, une société de conseil destinée aux investisseurs israéliens. L'objectif est de les aider à comprendre les codes de la région du Golfe avec lesquels ils sont peu familiers, affirme-t-il. Le nom de cette entreprise est d'ailleurs symbolique, Abraham Partners. Sur la page LinkedIn de cette entreprise, le drapeau israélien flotte à côté de celui des Émirats. Cette entreprise, le Belge l'a conçue avec un citoyen émirien rencontré lors d'un dîner. Enthousiasmé par ce nouveau marché, son associé s'est même mis à l'hébreu.
Justement parce que mon partenaire, c'est un partenaire émirien, donc il connaît bien la mentalité. Moi, je connais bien la mentalité israélienne, donc ça se complète un peu. Et c'est ça qui est important. Donc finalement, du consulting, le consulting que nous, on donne n'est pas tellement dans un domaine spécifique, c'est plutôt dans le domaine humain de dire voilà. C'est comme ça que vous faites. C'est ça la meilleure façon de faire une transaction. N'envoyez pas d'e-mail, ne téléphonez pas. Prenez l'avion et venez les visiter. Emmenez un petit cadeau.
Israël et les Émirats arabes unis vont signer encore plus d'accords. C'est en tout cas ce qu'avait prédit Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, lors de sa visite aux Émirats en juin dernier. C'était d'ailleurs le premier voyage officiel d'un haut diplomate de l'État hébreu dans le pays. Celui-ci était venu inaugurer l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi ainsi que son consulat à Dubaï. Le diplomate en a également profité pour visiter le pavillon israélien de l'exposition universelle qui débutera le 1er octobre prochain pour 6 mois.
Du côté israélien, on s'imaginait qu'on allait venir ici, le marché allait s'ouvrir, on allait signer des contrats, on reste ici 2 jours, on revient avec un contrat signé. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe aux Émirats. Donc ça a pris un peu de temps pour les Israéliens à comprendre, à s'adapter. Les Émiratis étaient un peu surpris par la façon très directe que les Israéliens veulent faire du business. Et donc les gens qui s'attendaient à ce que la première année, il y a des transactions pour des milliards de dollars, sont un petit peu déçus. On sait tous aussi qu'il y a quelques mois, il y a eu un conflit israélo-palestinien. Ici aussi, il y a eu un petit doute. Et on sentait très bien que les Émiratis ne savaient pas très bien comment réagir. Et donc ça aussi, ça a peut-être un peu ralenti les choses.
Aux Émirats, l'accord d'Abraham signé avec Israël n'a pas suscité la moindre critique. Près de 10 millions d'habitants vivent dans cette monarchie arabe du Golfe. Plus de 80% d'entre eux sont expatriés. Les plus grandes communautés représentées sont originaires d'Inde, du Pakistan et aussi du Bangladesh. Abdulralek Abdullah est un éminent professeur de sciences politiques. Dans un café situé dans l'un des immenses centres commerciaux de Dubaï, là où il s'entretient traditionnellement avec les journalistes internationaux, l'homme dresse le bilan un an après la signature des accords.
Je pense que le gouvernement émirien était guidé par de multiples raisons, à la fois stratégiques, économiques, technologiques, mais aussi géopolitiques. Les Émirats veulent jouer un rôle de pacificateur. Je pense d'ailleurs qu'ils ont réaffirmé ce statut à Washington et aussi dans les capitales européennes. À l'échelle du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis prennent aussi un risque en désamorçant les tensions régionales. C'est très important et ce facteur ne doit pas être dissocié des intérêts évidemment économiques. Et par-dessus tout, les Émirats ne tourneront pas leur dos aux Palestiniens.
Le professeur Abdulralek Abdullah est l'un des personnages les plus influents du pays. Il fut l'un des proches conseillers du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. Le jour de l'annonce de la normalisation des relations diplomatiques avec Israël le 13 août 2020, il a aussi été l'un des rares à s'exprimer. Sur son compte Twitter, le professeur de sciences politiques avait publié un émoji qui pleure. Aux Émirats, l'expression publique d'une opinion politique est rare. Cela ne veut pas pour autant dire que les Émiriens sont apolitiques.
The UAE population and the expat community.
La population aux Émirats, les nationaux comme les expats, ont vu ce que le gouvernement a fait pendant 50 ans. L'économie était très petite et le pays est aujourd'hui un hub international. Le niveau de confiance dans les décisions gouvernementales a toujours été haut. C'est certainement l'un des plus importants au monde. Et cela joue un rôle clé ici. C'est-à-dire, peu importe ce que le gouvernement fait, la population sera coopérative, même lorsqu'il s'agit de normaliser les relations avec Israël.
La crainte d'une nouvelle intensification des affrontements ce samedi au Proche-Orient.
L'escalade des tensions au Proche-Orient.
Une grande partie de ce journal sera consacrée à l'escalade de la violence ces dernières.
Avec le retour au premier plan du conflit israélo-palestinien, Abu Dhabi s'est toutefois retrouvé dans l'embarras. En septembre de l'année dernière, certains diplomates émiriens avaient en effet affirmé que les accords d'Abraham permettraient d'empêcher l'annexion des territoires palestiniens. Pour le professeur Abdullah, ce regain de violence a donc été un sérieux test pour ces accords, même s'il demeure irréversible, affirme-t-il. Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens émiriens ont exprimé leur soutien aux Palestiniens tout en dénonçant ce qu'ils qualifiaient d'agression israélienne, mais sans néanmoins dénigrer les accords d'Abraham. Certains sont influenceurs, d'autres sont même membres de famille royale émirienne, des militants ont également posté des messages de soutien. C'est le cas de Sheima Al-Balouchi. Cette jeune femme émirienne est âgée de 28 ans. Elle a été très active sur Twitter.
Après la normalisation des relations avec Israël, la Palestine est redevenue un sujet central. Nous sommes, en particulier en privé, toujours très sensibles à ce qui se passe là-bas. Nous y accordons beaucoup d'importance. Mais comme vous le savez certainement, nous ne sommes pas pour autant une société très politique. Nous ne parlons pas de ces sujets ouvertement. Je peux en revanche vous le confirmer parmi mes proches et les proches de mes proches, la Palestine est au cœur de nos discussions. Nous en parlons toujours, du moins lorsque les portes sont fermées.
En plus de ces prises de position en faveur des Palestiniens, de nombreuses initiatives concrètes ont aussi été organisées aux Émirats. Des événements de promotion de la culture palestinienne se sont par exemple improvisés. Des restaurants ont aussi décidé de reverser les recettes aux familles des victimes à Gaza. Contrairement au royaume de Bahreïn, qui a aussi normalisé ses relations avec l'État hébreu, aucune manifestation publique n'a en revanche été organisée ici. Pour Sheima Al-Balouchi, ces initiatives sont positives.
I would say the generation of my father often expressed their...
Je pense que la génération de mon père exprimait ses sentiments, ses opinions, de manière différente, en étant peut-être plus en colère, plus antisémite. Ma génération, qui est plus jeune, nous pensons que nous pouvons trouver une issue en parlant avec les Israéliens. Ensemble, nous pouvons la trouver. Les Israéliens, les Arabes, les Palestiniens, c'est le moment de parler ensemble et de trouver une solution ensemble. En étant antisémite, en colère contre la communauté juive, cela ne résoudra rien. Donc oui, je pense que les perspectives ont changé. On est maintenant en mesure de parler avec les Israéliens, même si nous ne sommes pas d'accord avec l'occupation, avec leur méthodologie et leur méthode. Nous ne sommes pas d'accord avec l'idéologie sioniste, mais nous parlons toujours. Car nous pensons que c'est de cette manière que nous pouvons atteindre une solution.
Preuve de ce nouveau dialogue possible, deux chanteurs, l'un émirien, l'autre israélien, ont composé une musique ensemble. Les paroles sont simples mais entêtantes. De l'arabe à l'hébreu en passant par l'anglais, les deux artistes promeuvent le vivre ensemble.
Ya salam ya baba, ya salam ya mama. يا سلام يا سلام كل ولاد العالم
يا سلام يا ابا يا سلام يا ايما يا سلام يا سلام كل ولاد العالم.
Ce que la normalisation avec Israël a changé aux Émirats, un grand reportage de Nicolas Kérodrin, réalisation Laurie Plisson.